Donc, la vie flamme d'amour dans la ville, ministère et la théologie de Saint Jean de la Croix. Donc, pour faire simple, c'est quand même, il faut dire que c'est un Castillan du XVIe siècle, un carme, un prêtre, un saint canonisé en 1726, proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XI en 1926, donc 200 ans après. Il est patron des poètes de langue espagnole. Il faut dire une chose tout de suite, les écrits autographes de ce poète théologien se sont perdus. C'est une première donnée. Ils nous ont été transmis en copie par des disciples fidèles, mais sont demeurés suspects durant un bon siècle. La canonisation de Jean de la Croix est tardive, 125 ans après sa mort. Il y a eu tout le processus canonique aussi, qui sont entrés en jeu. Bien. Donc, si vous voulez, sur le plan des écrits, on est un petit peu embêté. On n'a pas d'autographe. Sinon, quelques petits extraits, quelques petites sentences et quelques lettres. C'est quelques sentences, quelques petits extraits. C'est ce qu'on appelle les paroles de lumière et d'amour. Dichos de luz y amor. Paroles. Et amour. Voilà. Ils reviendront. Parce que c'est l'enseignement germinal de Jean de la Croix. Et puis, ça a été gardé par une carmélite. On a un autographe qui est conservé dans une collégiale en Andalousie. Donc, de sa main, un autographe. Et donc, on peut vérifier une centaine de sentences. Et puis, quelques lettres. Et puis, quelques corrections sur une copie du Cantique spirituel. Et puis, c'est tout. Tout le reste, ce sont des copies. Donc, vous voyez, on se heurte à une difficulté assez grande, c'est pas du tout la même. Sainte-Thérèse d'Avila, on a tous les autographes qui ont été conservés à la Bibliothèque royale de l'Escorial. Enfin voilà. Bon. Donc c'est une question pour les textes de Jean de la Croix. Bien. Alors, mystère d'une vie, d'une vocation. Je vais retenir deux points. Vous voyez, c'est très squelettique, mais parce que le reste, vous pouvez lire des biographies, des chronologies. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. La première chose qui me paraît fondamentale, c'est cette expérience, oui, fondatrice de la pauvreté. Donc, on ignore le jour, le mois exact de la naissance de Jean, de son baptême, à Fontiveros. Pour ceux qui ont fait le voyage, ça vous sait. On sait seulement l'année, 1542. Bien. C'est la province d'Avila. Alors, ses origines, c'est là que ça commence à devenir émoustillant dans cette biographie. Alors, les hagiographes baroques. Alors, je vous ai sorti, parce qu'on avait fait venir ça, je ne sais pas par quelles circonstances, les grandes biographies de Saint Jean de la Croix de l'époque baroque, donc 17e, 18e, 17e, en vue de la canonisation. C'est souvent les postulateurs qui ont écrit ces biographies. Donc, il y a quelques grandes biographies. José de Jesús María Quiroga, Alonso de la Madre de Dios, etc. Bon, c'est des grands noms. Alors, ce sont ce qu'on appelle des hagiographes baroques, de l'époque baroque. Alors, ils ont souligné à l'envi que le père de Jean de la Croix, Gonzalo, était d'origine noble, qu'il s'était épris d'une pauvre tisserande, tejedora Catalina Álvarez, qu'ils se sont mariés par amour, que lui a été déshérité par sa famille, furieuse de cette mésalliance, qu'ils ont été réduits à travailler tous les deux sur le métier à tisser, les toiles grossières, ce qu'on appelle en espagnol burato, c'est toiles grossières, et puis qu'à la mort de Gonzalo, parce qu'il est tombé malade et il est mort, alors que Jean était très jeune, les tentatives de la mère Catalina pour obtenir un soutien de la belle famille se sont heurtées à une absence de compassion totale. Alors ça, c'est ce que disent les hagiographes baroques. Or, dit Emilio Martinez, on n'a aucune preuve de ça. Aucune preuve. Rien à ce sujet. Donc voilà. Alors, je n'en dis pas plus parce que, c'est intéressant de voir comment il discute. Il dit qu'à l'âge baroque, pour préparer une canonisation, alors, comme en Espagne, il y avait l'obsession, et ça c'est vrai, c'est avéré de la pureté du sang, la limpieza de sangre, c'était une obsession dans l'Espagne du XVIe, XVIIe. Il fallait absolument attester qu'on n'avait pas de sang juif ni de sang musulman mort dans les veines. Et donc, pour prouver ça, le plus sûr était d'être de famille d'ascendance noble. Et donc, pour promouvoir cette sainteté, ils auraient insisté sur ça. Et ensuite, l'histoire de la mésalliance et tout ça, il n'y a rien à ce sujet-là. Voilà. Alors, il dit aussi, bon, j'ai eu un peu de, bon, la première partie, j'ai un peu digéré ça. La deuxième, sur le mariage d'amour, j'ai eu un peu plus de mal à digérer ça. Parce que je trouvais que ça allait bien quand même avec Saint Jean de la Croix. Il revient toujours à l'amour conjugal pour exprimer l'amour de Dieu, de son peuple et de l'âme. Donc on sent que chez lui, au niveau de l'amour conjugal, il a vu ça. Enfin, on peut se dire qu'il a vu ça dans sa famille, quelque chose de très beau, de très fidèle, etc. Alors lui, eux, ils disent, et c'est pas le seul d'ailleurs, il y a un autre historien carme espagnol qui le démontre aussi, que jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque des Lumières, il n'y a pas de mariage d'amour dans l'histoire. Voilà. Donc, qui fait les mariages? C'est les parents, les grands-parents, et puis basta, les jeunes obéissent, et puis c'est terminé. Hein? Donc, voilà. Ben, alors, moi, après, je pense qu'on peut s'aimer malgré tout, quand même. Enfin, bon, c'est pour dire que c'est assez décapant comme nouvelle approche biographique, quoi. Hein? Donc, voilà. Bon, en tout cas, cette vision peut-être idéalisé des origines du saint docteur mystique, bon, c'est peut-être à remettre en cause. En tout cas, ce que l'historiographie la plus récente nous permet d'assurer, c'est qu'il est né dans une famille pauvre, d'une pauvreté reconnue socialement, soutenue socialement par des institutions de bienfaisance. Ça, pour le coup, on a retrouvé des traces, des preuves. Hein, ils étaient, j'allais dire, un petit peu à la Caritas de l'époque. Voilà, hein, ils étaient soutenus par les associations. On a des traces, il y a des inscriptions. Là, ils ont fait des études très poussées. Hein. Dans une Castille qui, précisément, lors des années 1542-1545, c'est les années de la naissance de Jean, de la mort de son père, du frère cadet Louis, le deuxième de la famille, la Castille, à ce moment-là, était désolée par des sécheresses, des mauvaises récoltes de blé et d'orge, des famines qui provoquaient maladies et morts. Les historiens modernes sont très friands de ce type d'études, hein, évidemment, ça, on est dans l'historiographie moderne, très sociologique, enfin, vous voyez, économique et tout ça. Hein. Bon, mais ce n'est pas inintéressant. En tout cas, ça fait contraste avec la conquête des Indes occidentales, de l'Amérique, hein, pour tout dire, hein, par l'Espagne. Donc le Mexique, le Pérou, tout ça c'est fait, hein, c'est déjà conquis, voilà. Avec l'afflux de l'argent, des mines, du Pérou, de Bolivie, du Mexique. Tout ça, ça arrive par les caravelles en Europe, hein, mais tout ça, c'est gaspillé par la couronne dans les guerres européennes. La couronne espagnole, c'est les Habsbourg, hein, c'est Charles Quint, donc qui guerroie en Europe pour le Saint-Empire, etc., en Italie, en Flandre, etc. Donc tout ça, tout cet afflux d'argent, en fait, sera la ruine de l'Espagne. Hein. Donc voilà, hein, on le sait. Et donc c'est cette période, une période donc, de grande disette, de pauvreté en Castille. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, la mère, après la mort du père, arrive sans ressources dans une autre ville qui s'appelle Medina del Campo, avec l'aîné, François, qui est déjà marié, et puis Jean, le petit, vers 1551, vraisemblablement. Bon. Ils s'établissent dans les faubourgs de cette ville, qui était encore riche et commerçante. La mère est recensée comme veuve pauvre. Elle est recensée, on le sait. Et alors, évidemment, elle va faire en sorte que Jean se débrouille dans la vie. C'est clair. Donc elle va lui faire faire des essais d'apprentissage de métiers manuels qui vont s'avérer vite infructueux. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la ville de Médina, qui était une ville riche de commerce, alors là aussi les études d'histoire et de sociologie le disent, et c'est intéressant, c'est une ville qui s'occupait des pauvres, qui avait des institutions de bienfaisance et qui faisait en sorte que les pauvres ne deviennent pas des délinquants dans la rue. Et donc que ces enfants qui n'étaient pas scolarisés, qui n'avaient rien à faire, etc., ne traînent pas dans les rues. Donc ils ont tendance à montrer dans cette biographie que Jean aurait pu devenir un jeune délinquant. C'est assez spectaculaire de lire ça. C'est assez marrant. Bon, enfin voilà. D'une ville riche, mais avec ses institutions de bienfaisance, et qui a cherché. Alors, il y avait des fondations d'écoles. Donc, on avait fondé une école des doctrinos, la doctrine, où on apprenait à lire et à écrire, mais grâce à des méthodes qui permettaient aussi de donner la doctrine chrétienne. Il y avait des abécédaires avec les paroles de l'écriture, enfin, vous voyez, on fonctionnait beaucoup comme ça. Donc, il va aller dans cette école, qui est évidemment gratuite, c'était un collège d'orphelins. Il va apprendre à écrire, à compter. Sans doute, si on calcule bien, il a 10 ans, hein, donc il n'est pas scolarisé à la maternelle. Hein. Bon. Alors, c'est assez amusant, parce que dans la biographie, ils disent aussi qu'il ne faut pas s'attendre du côté de Catalina, une tendresse maternelle pour un enfant et tout ça. Les enfants, ça ne compte pas jusqu'au XVIIIe siècle. Ça, c'est prouvé aussi. Les enfants, ça ne compte pas. On les fait travailler. Ils sont là pour garder les moutons à la campagne ou en ville pour obtenir de l'argent, etc. Donc, les enfants, il ne faut pas chercher... voilà. Bon. Voilà. C'est assez intéressant comme approche. C'est peut-être discutable. Toujours est-il qu'elle veut qu'il se débrouille. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon. Le bienfaiteur du collège impose aux élèves de servir les messes à l'église de la Madeleine. Alors là aussi, c'était un petit peu idéalisé dans les biographies. On disait qu'ils découvraient le mystère eucharistique, ce qui n'est pas faux non plus. Hein. Voilà, parce qu'il est enfant de cœur et tout ça. Alors dans la biographie, ils disent aussi, bon, il fallait servir les messes à la suite. Hein. On n'est pas toujours dévot, hein, parce que, voilà. Et puis ensuite, il fallait suivre les enterrements des riches. Parce que plus il y avait de monde à suivre les enterrements, plus la richesse apparaissait. Donc ils faisaient ça aussi. Voilà. Voilà. Bon, c'est assez intéressant. Hein. Bon, alors, ce qui est sûr, hein, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en raison de ses aptitudes intellectuelles, et en particulier pour les lettres, on va le mettre à suivre une formation humaniste au collège récemment fondé par les jésuites. Et c'était un collège gratuit en raison des subventions de la municipalité. La municipalité de Médina avait la préoccupation de faire sortir les gens de la misère, de la pauvreté, par l'éducation, la scolarisation. Voilà. Bon. Donc, il va étudier les grands classiques latins, grec, la morale, la grammaire, la rhétorique. Une formation précieuse, mais très exigeante, car c'est le soir, hein, on peut dire les cours du soir, si vous voulez. Dans la journée, il doit travailler comme quêteur, il fait la quête, il va chercher des aumônes, et comme infirmier dans un grand hôpital renommé de la ville, ce qu'on appelle l'hôpital des pustules, des maladies contagieuses, plutôt honteuses d'ailleurs, ça ne se dit pas trop, hein, mais c'était plutôt les maladies style maladie vénérienne, hein, donc c'est pas trop brillant tout ça. Et alors là, c'est une expérience, je crois, très importante pour Jean de la Croix, donc il est au service des malades, des plus pauvres, hein, et il réussit parfaitement, hein, et ça va lui rester. On sait que dans les monastères, dans les couvents qu'il va fonder, quand il sera prieur, tout ça, il aura un grand soin des malades. Donc ça va lui rester, hein, c'est sûr. Bon. L'administrateur aurait pu faire de Jean le chapelain de l'institution, et ça aurait sorti définitivement la famille de la misère, mais à 21 ans, le jeune homme a décidé d'entrer au Carmel. Pour qui, pourquoi ? On ne sait pas. Beaucoup d'hypothèses. Alors, la géographie baroque, Carme, déchaussé, c'est réformé, dit, alors, qu'il aurait eu une parole intérieure ou une vision, disant lui, le poussant à entrer dans cet ordre, le Carmel, car il n'était pas encore réformé. De fait, le Carmel en Espagne est un des derniers ordres à se réformer. Bon, après les franciscains, tout ça, les dominicains, tout ça, les bénédictins. Et qu'il fallait qu'il y entre pour, parce que c'était un ordre qui était très relâché, et qu'il y entre pour le réformer. Alors, bon, on n'a pas de preuve de ça. Hein. Ensuite, bon, les carmes des Chaudises, il y est entré parce que le Carmel est un ordre tout marial. Or, Jean de la Croix avait, dans son enfance, bénéficié de manifestations tout à fait particulières de la Vierge, quand il se noyait dans une mare ou dans un puits, etc. Donc, mais ces manifestations ne sont pas forcément attestées, disent les nouveaux historiens. Voilà. Bon, enfin, bon, on ne sait pas. Hein. Je pense, vu les textes, un petit texte qu'il a produit ensuite à Salamanque sur la contemplation, que la règle du Carmel disait que les carmes étaient appelés à méditer jour et nuit la loi du Seigneur, à moins d'être occupés à autre chose. C'est la règle du Carmel, la règle primitive. Et cet aspect contemplatif du Carmel avait de quoi l'attirer, en tout cas. Voilà. Pour ça, il y a sûrement un élément là intéressant. Bien, alors tirons un premier point. L'école d'une pauvreté d'abord subie, puis apprivoisée dans la rue. Bon, j'en fais pas un gosse des rues quand même, hein, mais enfin bon. Hein. Dans la rue et à l'hôpital au service des malades mal famés, ça c'est sûr. Hein. Et finalement embrassée comme style de vie dans la profession des conseils évangéliques. Hein. Il choisit, en entrant au Carmel, de professer les conseils évangéliques de pauvreté, obéissance et chasteté. Cette école de la pauvreté a forgé la personnalité de Jean. Jusque dans son corps était petit de taille, il restera chétif toute sa vie parce qu'il a été mal nourri. Ah oui, c'est clair, il a été mal nourri. Son frère est mort de malnutrition. Donc, ça, c'est vrai. Hein. Sa vie simple, cachée au regard de ses contemporains, même de ses propres frères carmes, son refus de séduire par le langage, son abord un peu farouche. Il ne cherche pas à séduire, Jean Lacroix, ça c'est très clair. Hein. Il est un peu... On dit en espagnol « huraño », un peu farouche, oui, un peu comme la chèvre là, des montagnes, ça, c'est un peu ça. Son amour préférentiel pour les petits, les malades, dans son ministère de prêtre et de carme, sa conception du monde, de l'existence, où on ne s'installe pas, on n'est pas ici pour s'installer. Je crois aussi le peu d'attachement qu'il manifeste pour les écrits de sa main, hein, la pédagogie vigoureuse, des dépouillements qu'on va trouver dans la montée du Carmel. Eh bien, tout cela trouve dans cette expérience personnelle de la pauvreté une référence. Hein. Mais il n'en parle jamais. Jean de la Croix ne parle jamais de lui. Et ce qui est étonnant, alors qu'il a vécu la pauvreté, qu'il a été au coude à coude avec les plus pauvres, etc., dans son œuvre écrite, il n'y a jamais question de la pauvreté matérielle, des questions de justice, d'équité, de distribution des richesses dans une société qui était quand même extrêmement hiérarchisée et très injuste. Hein. Son message n'a pas de dimension sociale, explicite, il faut le dire. C'est assez intéressant. Ça a été relevé par, au chapitre général des Carmes de Fatima il y a deux ans par Juan Martín Velasco, un phénoménologue des religions. Il dit, mais c'est tout à fait étonnant que quelqu'un qui a vécu cette pauvreté n'en parle pas quoi, à ce plan-là. Parlera toujours de la pauvreté spirituelle. Eh oui, c'est frappant, hein. Voilà, bon. Le deuxième élément, projet de vie théologale, on l'a déjà un petit peu enclenché, hein, je vais être moins long. Hein. Pourquoi est-il entré au Carmel? Qui a-t-il trouvé, hein? Ça concerne le projet de vie du futur docteur mystique, ses options spirituelles qui vont déterminer son message et sa théologie. Hein. Moi, je ne fais pas de la biographie pour la biographie, hein, ça ne m'intéresse pas, ça, hein, vous le trouverez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonde son message, ce qui en est le soubassement. Hein. Donc, la géographie baroque, je vous ai dit un petit peu comment elle voyait les choses. Hein. Je crois qu'en effet, cette dimension contemplative avait de quoi l'attirer. Hein. Je ne veux pas détailler trop, mais vraisemblablement, il a vécu une sorte de crise de vocation lorsque... Après son noviciat, il a été envoyé à Salamanque pour étudier. Alors là aussi, il a étudié plus de philosophie que de théologie, le pauvre. Il a fait 3 ans de philosophie et une seule année de théologie. On n'avait pas l'obligation de faire de la théologie pour être ordonné prêtre à l'époque. On n'avait pas l'obligation de faire des études, d'ailleurs, au XVIe siècle. Hein. Voilà, hein, on est tout juste à la sortie du Concile de Trente. Hein. Les séminaires, ça commence à peine. Jean d'Avila, en Espagne, avait déjà lancé des projets. Hein, mais enfin, bon... C'est tout récent. Donc, il a fait 3 années d'art, c'est-à-dire la philosophie. Les arts, c'était la philosophie. Hein, et une seule année de théologie. Vraisemblablement, et ça se voit dans l'entretien qu'il a avec Sainte Thérèse, quand ils vont se rencontrer, Jean de la Croix n'est pas très satisfait de l'atmosphère de Salamanque, des études qu'il fait. Pourtant, il est assez studieux et même brillant, puisqu'il est répétiteur de ses frères, Carmes, dans le collège des Carmes. Hein. Il va à l'université comme ses frères, il écoute les grands maîtres qui ont les grandes chaires de Salamanque, la chaire de Prime le matin et la chaire de Vêpres le soir, les plus grands noms, hein, bon, voilà, ceux qui ont visité se souviennent. Alors, d'après la biographie aussi, bon, on disait que c'est parce que sur le plan intellectuel, bon, ça ne le remplissait pas, il cherchait une vie spirituelle plus profonde, quelque chose de plus contemplatif. Moi, je le crois toujours, ça. Hein. Mais enfin, alors, ils ont tendance à dire que là aussi, il s'est trouvé à Salamanque, dans une atmosphère où il y avait beaucoup de conflits. Alors, ils ont fait des études qui paraissent sûres, quoi. Hein. Des luttes de pouvoir pour les chairs, pour obtenir l'obtention des chairs entre les ordres religieux. Bon, c'est pas tout à fait étonnant, hélas. Bon. Dominicains, Augustins, voilà, la ligne tomiste des Dominicains, les Augustins, l'ancienne école, les scripturaires, ceux qui mettent en place toutes les études d'écriture sainte, et puis les tomistes, enfin bon, il y a des tas de conflits, c'est sûr, intellectuels, conflits de pouvoir, et aussi d'argent. Voilà. Donc, voilà. D'après eux, Jean de la Croix aurait été un petit peu parmi les étudiants qui désiraient davantage, enfin, ou qui étaient du côté de ceux qui promouvaient les études d'écriture sainte. Bon, d'après eux, voilà. Ça paraît bien documenté, c'est séduisant. Bon, je trouve plus fiable l'appréciation de Sainte Thérèse, parce que Jean de la Croix va rencontrer Sainte Thérèse. Donc, il est ordonné prêtre en 1567. Donc, il a 25 ans, on ne sait pas la date, une fois de plus. Terrible, hein ? Ses livres ont disparu, mais ses dates et tout ça, on n'a rien sur lui. Hein ? Les lieux où il a vécu, il ne reste pas grand-chose non plus. Donc, c'est ça, hein ? C'est vrai. Alors, Sainte Thérèse raconte dans le livre des Fondations, au chapitre 3, la rencontre décisive qu'elle a eue avec le jeune Carme, qui était venu chanter sa première messe à Médina, parce qu'il revenait dans le couvent, il avait fait son noviciat, et il venait aussi parce que sa maman était là, et son frère François. Voilà, donc c'est un peu normal. Hein. Donc il revient à l'automne 1567, chanter une première messe, ou des premières messes, et Thérèse était venue, quelques semaines auparavant, fonder, implanter son deuxième couvent de réformés, de carmélites réformés. Et elle entend parler de ce jeune Carme, elle en entend du bien, et elle veut le rencontrer. Elle raconte cette rencontre, et finalement, elle a découvert, elle a vérifié que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Vous lirez dans le texte des Fondations, on ne va pas s'y attarder. Et alors, elle dit bien qu'il avait le désir d'aller à la Chartreuse. Elle dit bien qu'il pensait à autre chose qu'au Carmel. Voilà, cherchait-il quelque chose de plus absolu, sans doute, de plus contemplatif, de plus silencieux, de plus solitaire, sans doute. Elle n'en dit pas plus, et lui, il n'en dit rien, évidemment. Bon, on peut le supposer. Et finalement, il va être gagné par les arguments de Thérèse, sans doute. Il accepte de s'engager dans le projet d'une réforme. Elle avait, elle, la permission de fonder des monastères de Carme, deux monastères de Carme. Elle pouvait fonder des monastères de carmélites autant qu'elle avait de cheveux sur la tête. Le père général lui avait donné toutes les permissions, les autorisations. Lors de sa visite, il venait d'Italie, il a fait sa visite. Vous voyez, on est à une période de réforme. Hein. Il vient d'Italie, le père général des Carmes, il fait la visite. Il essaie de mettre de la réforme dans cette décadence un peu de la vie religieuse. Hein. Et Sainte Thérèse, il a été ravi de voir ce qu'elle avait fait. Et donc, il lui a donné la permission de faire tous les le couvent de carmélites qu'elle voulait. Alors, elle a essayé après d'obtenir l'autorisation pour fonder des carmes contemplatifs réformés. Alors là, c'était beaucoup plus difficile à cause des non-réformés. Il y a eu des obstacles, des empêchements, des oppositions très vigoureuses et qui vont ressurgir par la suite. Et elle a donc la permission de fonder deux couvents, pas plus, en Castille, pas ailleurs. Voilà. Donc, c'est assez draconien. Et alors, elle le gagne au projet et il accepte à condition que cela ne tarde pas. Elle le cite, et ça, c'est très Jean de la Croix. Hein. C'est la dynamique de sa vie. Hein. Ce dynamisme assez fascinant dans sa vie, ça va fasciner beaucoup les philosophes français du XXe siècle, tous ceux de l'école d'Aix en Provence, après Blondel, Paliard, Berger, Forest, tous ces gens-là, ils sont très fascinés par ça. Il y a dans la vie de Jean de la Croix un mouvement incessant un dynamisme, il ne s'arrête pas, il ne s'installe pas, il ne s'attarde pas, hein, il cherche plus, mieux, je ne sais pas comment dire, un mouvement de dépassement. Hein?
Davantage.
Oui. Merci. Et oui, parce que quand même, je crois que ce qui l'anime, c'est cette soif de communion avec ce Dieu qui s'est révélé à lui comme un absolu, qui l'a blessé, qui l'a convoqué, qui veut lui parler au cœur dans cette solitude extérieure et intérieure qu'il décrit. Il dira, parler au cœur, c'est satisfaire le cœur qui ne peut se satisfaire de moins que de Dieu. Le cœur ne peut se satisfaire de moins que de Dieu. Donc il y a un mouvement d'insatisfaction spirituelle, non pas, c'est pas quelqu'un qui est insatisfait des lieux où il vit, des personnes qu'il rencontre, et qui ne sera jamais bien nulle part. Il est bien partout, Jean Lacroix. Il s'adapte partout. Hein, c'est pas ça. C'est pas cette insatisfaction d'un idéaliste qui sera jamais bien nulle part. Non. C'est plutôt la soif d'une plénitude, quoi, d'un absolu. Oui.
Qui n'a pas failli finalement devenir jésuite, non?
Bon, c'est enregistré, donc je ne peux pas répondre. Mais c'est de la provocation. Il a fui les jésuites chez qui il a étudié. Il aurait pu y entrer. Mais manifestement, il les a fuis. Bon. Bien. Et je pense que les jésuites, il les combat dans la vie flamme, en particulier dans la strophe 3, à propos des fameux directeurs spirituels. Nous y reviendrons plus en détail. Ce sera une journée mémorable. Je pense que ce sera jeudi soir et vendredi soir. Donc préparez-vous, cher père. Voilà.
Sainte-Thérèse est venue des Jésus. Quelques Jésus aussi, comme directeur.
Ah oui, bien sûr. N'entrons pas dans ces questions qui fâchent, hein, s'il vous plaît. Bon. Voilà. Bien. Enfin, vous avez le droit quand même à quelques interventions, hein, mais bon. Alors, il y a un projet théologal chez Jean de la Croix, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Il va inaugurer à Dorouello, nous avons vu ça en pleine campagne, un style de vie libre, une vie libre, hein, et libérante de toute pression extérieure et intérieure. C'est ça, Dorouello. C'est ça la réforme des carmes. Hein. Liberté extérieure et intérieure, solitude, c'est-à-dire liberté. Style de vie. Bon. Intéressant de relever aussi quelque chose qui peut nous aider, enfin bon, l'attitude devant les biens réels de l'intelligence, notamment le savoir théologique, qu'il a rencontré à Salamanque et qu'il aurait pu approfondir encore davantage. Hein. Il pouvait continuer la théologie s'il avait voulu. Hein. Il a été capable d'intégrer, mais avec beaucoup de liberté, ça c'est Jean de la Croix, les acquis de la tradition théologique à Salamanque, aussi dans sa famille spirituelle, au Carmel. Il y a des docteurs du Carmel, hein, le docteur du Moyen-Âge, du Carmel. Hein. Donc il a acquis, il s'est imbibé. Mais ne cherchez pas dans Jean de la Croix des citations. Il cite quelquefois Augustin, et c'est souvent des textes qui ne sont pas d'Augustin, c'est les soliloques, hein, souvent, donc qui étaient attribués à Augustin. Il cite alors plusieurs fois Denis, l'Aréopagite, donc un grand-père, hein, de l'Église, hein, mystique, hein, la théologie mystique, il le cite beaucoup, c'est quand même une grande source pour lui. Enfin, beaucoup, non, il cite 4-5 fois. Quoi. Il suffit que vous allez voir la concordance, vous verrez, hein, une bonne concordance, très peu. Il cite un peu saint Thomas, 3-4 fois, et encore dedans, ce sont des écrits qui sont attribués à saint Thomas, hein, pour la moitié. Voilà les sources de Jean de la Croix, les sources qui l'attestent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il intègre, mais il intègre à son projet théologal ce qui lui va, il intègre, c'est l'abeille qui butine, il intègre, puis le reste, voilà, il est lague. Hein. Il est capable d'intégrer, mais il est capable de renoncer aussi à la spéculation qui dessèche. Et je crois que c'est son expérience de Salamanque. Dans les centres universitaires prestigieux qu'il va fréquenter par la suite, en raison de sa charge de maître des étudiants carmes, donc à Alcalá, la ville d'Alcalá près de Madrid, donc on l'a vu en passant avec le voyage, donc c'est le grand centre des études de l'écriture, avec le lancement de la Bible polyglotte, hébreu, grec, latin, au XVIe siècle, hein, par le cardinal Cisneros, régent, ministre des rois catholiques, donc des études bibliques faites avec des professeurs juifs, hein, donc tout à fait intéressant tout ça. Et puis ensuite en Andalousie, Baeza, une ville qui est plus connue maintenant du tout, et qui à l'époque était très importante. C'est une ville qui avait beaucoup d'habitants à l'époque, qui était très populeuse, et où Jean d'Avila, dont on parle actuellement, parce qu'il pourrait être proclamé docteur de l'Église à l'occasion des JMJ, non, on en a parlé récemment, hein. Eh bien, Saint Jean d'Avila a fondé, qui était le grand apôtre de l'Andalousie, a fondé, parce qu'il n'avait pas pu aller en Amérique, parce qu'il n'avait pas le sang pur, donc il avait été recalé, et donc il avait évangélisé l'Andalousie. Et il avait lancé une faculté de théologie à Baeza. Et là, c'était tout à fait intéressant parce que c'est une faculté de théologie qui faisait théologie et spiritualité, théologie et pastorale. Et les étudiants sortaient après les cours ou pendant les cours, faisaient des études pratiques dans la ville. On faisait des joutes théologiques dans la ville. C'était une ville qui était très charismatique, très effervescente. avec pas mal d'illuminisme, pas mal de béates, enfin tout ça, une vie très, voilà, comme ça. Hein. Voilà. Alors, dans ce contexte où il va être maître des étudiants 3 ans, il sera invité à des disputes théologiques, exégétiques même, car il était célèbre pour son interprétation de l'Écriture, très assuré. Il connaissait beaucoup l'Écriture, il habitait la Bible. Et ça, ça l'intéresse que dans la mesure où cela conduit à une communion plus profonde avec Dieu. Hein, voilà. Ce qu'il dira aux étudiants, hein, étudiants et religieux, aux étudiants car, mais religieux d'abord. Voilà ce qu'il leur dit. Voilà. Donc, la contemplation du mystère de Dieu, révélé dans le Christ, par la foi, par l'amour, hein, c'est le ressort de sa vie personnelle. C'est le ressort aussi de son ministère auprès des personnes. Le ministère de Jean de la Croix, c'est une pastorale de la vie théologale avant tout. Il est mystique et, comme on dit en espagnol, avec un terme un petit peu barbare, mystagogue. C'est-à-dire il conduit à l'expérience mystique. Mystique et mystagogue. Voilà, premier point. Deuxième point. Un chant jailli de la nuit et au pied de la croix. Ah, bon. Attention. Alors, son nom était Jean de la Croix. Bon, je ne veux pas trop insister, mais enfin, quand même. Hein. Donc, il s'appelait Jean de Saint-Mathias. Quand il commence la réforme des Carmes à Duruelo, à l'instigation sous l'impulsion de Sainte-Thérèse, il prend le nom de Jean de la Croix. Hein. Donc, c'est pour lui un non-programme. Au monastère de l'Incarnation, un petit peu plus tard, 2-3 ans après, au monastère de l'Incarnation à Avila, où Thérèse le fait venir comme confesseur des 180 religieuses dont elle est la prieure forcée, on l'a nommée, donc elle le fait venir pour l'aider. Il a eu, depuis une tribune qu'on voit encore, la vision du crucifié. Et dans une perspective très originale, que vous connaissez bien, il l'a transcrite dans un petit dessin à la plume, hein, Jésus en croix, vu d'en haut, en plongée depuis le ciel, comme depuis le regard du Père. C'est vrai, le mystère de la croix s'est imposé à Jean. Il acceptait d'entrer dans son épaisseur, comme il le dira dans la strophe 36 du cantique spirituel. Entrons plus avant dans l'épaisseur, en la espessura. On traduit souvent profondeur, mais c'est épaisseur du mystère de la croix. La nuit du cachot de Tolède, je ne veux pas trop insister, ce sont des événements connus. Nous sommes en décembre 1577, il a 35 ans, il faut quand même tenir compte de ça. Hein? À l'incarnation d'Avila, les Carmes non réformés, échauffé par la vigueur de la réforme thérésienne, bon, franchement jaloux du ministère de Jean de la Croix auprès des carmélites de l'incarnation, le font enlever ainsi que son compagnon. Hein, il n'était pas seul, hein, il y avait un compagnon. Il l'emmène jusqu'à Tolède, donc il reste séquestré 9 mois durant dans la prison conventuelle. Bon, là aussi, il faut dramatiser, mais sans plus, tous les couvents avaient une prison. On mettait dans la prison les sujets un peu désobéissants, récalcitrants ou un petit peu malades de la tête. On pensait que c'était le traitement le plus adéquat. Hein. Les couvents de Sainte-Thérèse, d'après les constitutions, ont une prison. Donc on mettait les récalcitrantes. Et Sainte-Thérèse recommande de les mettre quand elles sont un peu trop illuminées, qu'elles sont un peu trop contemplatives et qu'elles ne font pas de travail dans la maison. Il faut les mettre au cachot, il n'y a pas de problème dans la prison. Quoi. Je veux dire, bon, il faut dramatiser sans plus. Mais ce qui est dramatique, c'est que ce n'était pas tout à fait la prison du couvent, c'est que c'était plutôt une sorte de cabinet hygiénique qui n'était pas bien entretenu, tout ça. Donc voilà, il va être enfermé là 9 mois dans l'hiver rigoureux de Tolède et la chaleur ensuite aussi extrême de Tolède. Hein. Sans Bible, sans... Bon, le bréviaire, je suppose qu'on ne pouvait pas l'enlever, mais il n'avait rien, quoi. Il ne peut pas célébrer l'Eucharistie. Quand il a demandé à célébrer l'Eucharistie, le prieur a refusé. Hein. Voilà. Hein. Il est séquestré là aussi. Alors, faut bien mettre ça en contexte aussi. C'est très compliqué. C'est un imbroglio juridique et canonique que cette réforme des Carmes. Vous avez d'un côté, c'est bien montré dans ce livre-là et je trouve ça très éclairant, vous avez d'un côté le pape à Rome, les généraux d'ordre, le général des Carmes en Italie. Alors, de leur côté, ils promeuvent la réforme des ordres religieux. Et puis vous avez de l'autre côté en Espagne, le roi Philippe II, très catholique, plus catholique qu'on puisse imaginer, que le pape, et qui, lui, de son côté, promeut la réforme. Et tous les ordres qui ne se dépêchent pas à se réformer, il les pousse. Donc, il y a ces deux choses et il y a quand même des conflits. Et c'est assez net que la réforme thérésienne et Sainte Thérèse vont être ballottées d'un côté et de l'autre, de juridiction et tout ça. Donc c'est un véritable imbroglio. Hein. Et à vrai dire, Jean de la Croix en fait les frais, quoi. Voilà. Donc les carmes qui ne sont pas réformés mais qui sont sous la pression du roi, alors sont furieux, l'ont enlevé, tout ça. Donc ils veulent le faire renoncer à la réforme, c'est clair. Donc il y a, non seulement il n'est pas nourri, il n'a pas l'hygiène, il ne peut pas célébrer l'Eucharistie, mais il y a une pression psychologique très forte pour qu'il renonce à la réforme. Hein. Bien, donc c'est assez terrible, hein, des pénitences publiques, etc. Donc vers le mois de mai, c'est ce qui nous intéresse. Le gardien est relayé par un jeune frère qui admire la patience du prisonnier, lui offre quelques soulagements. C'est intéressant parce que c'est le début de l'explosion littéraire pour nous. Hein. Jean de la Croix s'enhardit, c'est les procès qui nous le disent, là c'est bien attesté, a demandé qu'il lui fasse la charité d'un peu de papier et d'encre parce qu'il veut faire des choses de dévotion pour occuper son temps et il les lui apporta. Jean de la Croix écrit ce qu'il gardait en mémoire et constitue une sorte de petit cahier qui va l'accompagner, ça c'est attesté aussi, hein, lorsqu'il s'évade dans l'octave de l'Assomption. Donc sur le cahier, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous le savez quand même, ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le cahier? Monsieur dame qui avait fait le voyage. Il y a 31 strophes, s'il vous plaît, du cantique spirituel, qui sera le cantique spirituel A, jusqu'à la strophe 31 qui commence par « Aux nymphes de Judée », d'accord? Bon. Ensuite, il faut le savoir, ça, par cœur. Ensuite.
La nuit.
Non, c'est ma vie. Justement. Quoi encore? Je vais vous dire après.
La
source, le chant, cantar, de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi, autrement dit la source, la fuente o la fonte, cantar. Donc c'est la source de vie trinitaire concentrée dans le pain eucharistique, ce poème de la source. On passe de la Trinité à l'Eucharistie direct, et comme on passe, on va bientôt le vivre dans la liturgie de l'Église, de la fête de la Sainte Trinité à la fête de Dieu, à la fête du Saint-Sacrement, en quelques jours. Donc lui, il vit ça, il ne peut pas le célébrer, il le vit, ça c'est clair, dans son cachot. Bon, et ensuite, vous oubliez, 9 romans sur l'Évangile, au commencement était le Verbe de Saint Jean, prologue de Saint Jean, au sujet de la Trinité de l'Incarnation. C'est très important, on va y revenir. Et puis une glosse sur le psaume 136, au bord des fleuves de Babylone, nous avions pendu nos harpes et nous pleurions. Normal, d'accord? Bien. Alors, première chose qu'il faut noter, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est Jacques Palière qui dit ça, l'âme de Saint Jean de la Croix est un chant spirituel. La première expression de Jean de la Croix, c'est la poésie, c'est le chant. Poésie chantée, il les chantait. Ce n'est pas le texte spéculatif, théologique. Première expression, hein. La poésie comme le mode le plus haut du langage humain, qui symbolise avec l'expérience spirituelle la plus élevée. Et la poésie de Jean de la Croix, hein, elle est étudiée par les poètes, hein, et par les critiques littéraires, elle reflète du talent, un effort, du travail, une attention aux productions littéraires du temps et bien sûr de l'inspiration. C'est clair, hein. Vous le verrez, on le verra pour la vie flamme, il a pris des rimes et des strophes de la poésie italianisante à la mode, c'était la grande mode en Espagne à l'époque. Il avait étudié chez les jésuites à Médina et il en a profité. Bien. Donc la poésie, Jean de la Croix n'est pas poète par hasard, mais par choix. Je crois que ça c'est très important pour une communication adéquate. Là, je m'inspire de quelques études de très bons critiques littéraires d'Espagne, là, très récents. Parce que l'expérience mystique, elle est de soi incommunicable. Hein. C'est une entrée par l'amour et la foi dans les profondeurs infinies de Dieu. C'est un contact transformant avec Dieu. C'est de soi incommunicable. Dans tous ses prologues, quand il va commencer le commentaire de ses poésies à la demande des gens, Jean de la Croix va nous dissuader de nous intéresser au commentaire. Il dit le commentaire, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, il y a le mot « canción », c'est le chant, et il y a le mot « declaración », c'est l'explication. Mais du coup, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Vous pouvez relire tous les prologues, vous verrez ça. Alors, pourquoi il parle, pourquoi il explique? C'est la charité pastorale. Parce qu'il a vu tant de gens qui ont besoin et qui ne sont pas guidés. Voilà. C'est la charité pastorale qui lit un site. Alors, ces chants, ces premiers chants, ils ont mûri dans une grande souffrance humaine et spirituelle. Hein. Ce n'est pas des petites chansons sympathiques. Hein. Cette explosion poétique est l'expression d'une foi cristalline, d'une espérance vigoureuse, d'un amour brûlant par lesquels il a traversé cette nuit obscure. Et oui, alors le poème de la nuit est postérieur à son évasion du cachot de Tolède. Il est vraisemblablement composé en Andalousie, quelques mois après. Et d'ailleurs, il parle au passé d'une nuit, d'une fuite, d'une évasion. Ça veut dire que c'est passé, hein, c'est clair. Mais enfin, quand même, il a traversé cette nuit obscure, hein, on peut bien dire, hein, ce scandale de la persécution de ses propres frères en religion. C'est le scandale des scandales, ça, pour un chrétien. Et il l'a traversé en parfaite cohérence avec l'Évangile. Je le dis parce que, après, ben, ça n'apparaît pas trop dans son message, hein. En parfaite cohérence avec l'Évangile de la Passion du Christ, il a surmonté la jalousie, la haine, l'acharnement, par le pardon des injures, la reconnaissance pour le moindre soulagement, et on a tous les témoignages des procès à ce sujet-là, c'est bien attesté. Donc, je crois que ça, c'est assez important. Donc, ce poème de la Noche Oscura, écrit quelques mois plus tard, au Calvario, au bord du Guadalquivir, évoque cette sortie de nuit, une quête qui débouche sur l'union de l'aimé et de l'aimant. Certainement, le symbolisme de la nuit, c'est le plus connu, le plus réussi de Jean de la Croix. Nuit bienheureuse, plus aimable que l'aurore, ô nuit qui as uni l'aimé en son bien-aimé transformé. Mais je dis déjà une chose qui me paraît assez importante. La nuit obscure, ce n'est pas toute expérience négative dans une vie humaine, toute expérience critique ou limite, ou tragique, ou cruelle. C'est ça. Mais à condition que le sujet qui la vit donne une réponse théologale. C'est ça la nuit pour Saint Jean de la Croix. C'est assez important de voir cette nuance. On a parlé de nuit cosmique, on a parlé de nuit à propos de grandes tragédies du XXe siècle. On se demandait si on pouvait appliquer ce symbolisme de la nuit de Saint Jean de la Croix. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès. Eh bien, oui, dans la mesure où le sujet qui vit la nuit, cette circonstance ou cette situation négative, limite, offre une réponse de foi, d'espérance et d'amour à Dieu. Sinon, ce n'est pas la nuit pour Saint Jean de la Croix. Je crois que ça, c'est une première démarcation, vous voyez, très importante. Bien. Accomplissement du mystère de la croix. Ouais, vous voudriez faire une pause, hein. Je vais essayer de vous la donner maintenant, mais bon. On peut faire ça encore, puis après je vous la donne ensuite. Mais je vous donnerai 10 minutes de toute façon, c'est promis, en toute justice, en toute équité. Bon, l'accomplissement du mystère de la croix. Je voudrais finir avec ça. Hein. C'est pas long, 5 minutes. Cette expérience douloureuse du cachot de Tolède, qui impressionne toujours beaucoup les gens qui lisent la vie de Jean de la Croix, hein, qui s'approchent de lui, a été décisive, c'est vrai, mais elle n'a pas été unique, hélas. Dans les dernières années de sa vie, Jean a vécu l'accomplissement du mystère de la croix dont il portait le nom. Revenu en Castille en 1588, hein, 3 ans avant sa mort, prieur du couvent de Ségovie, conseiller du gouvernement des Carmes, la consulta, hein, organe de gouvernement de la province séparée des Carmes des Chaussées, il est pris là encore au milieu de conflits de pouvoir, de juridiction, d'opposition entre frères Carmes et sœurs Carmélites, de tensions au sujet de l'interprétation authentique du charisme thérésien. Sainte Thérèse était morte. Et donc, bah, tout le monde se bat au sujet de l'interprétation. C'est tout à fait normal, c'est constant dans l'Église, que faire. Bon, il prie, il souffre pour l'unité. Et comme Jésus à Gethsémani, dans la prière sacerdotale, Jésus, spécialement durant les nuits étoilées dans une petite grotte du jardin de Ségovie, où il prie plus qu'il ne dort. Il apporte une collaboration loyale dans le gouvernement, il est membre du gouvernement, hein, de l'ordre, collaboration loyale mais aussi responsable, et surtout il n'entre pas dans la logique de la colère et des représailles, ça c'est très frappant, en particulier à l'égard des carmélites. Il aspire à être déchargé et frappe par sa liberté d'esprit. Il y a des gens qui disent « mais non, Père Jean, restez », etc. Ça lui est complètement égal, toutes ses responsabilités, toutes ses charges. Je dis tout ça parce que quand on lit les textes de Jean de la Croix, on a l'impression de quelqu'un qui est dans sa bulle. Mais c'est quelqu'un qui a exercé des responsabilités pendant de longues années, et qui a construit des couvents, qui a fait des milliers de kilomètres, qui a visité, donné la vie, aidé les gens, etc. J'insiste beaucoup là-dessus. Cette transparence au mystère de la croix est confirmée encore par un événement iconographique comme à Avila, cette vision du Christ d'en haut. Et là, il vient d'exposer un tableau du Christ qui porte sa croix et qui se trouvait dans la sacristie du couvent. Et il vient de le mettre dans l'église du couvent pour que le peuple de Dieu puisse le voir et le vénérer. Et le Seigneur s'adresse à lui, lui parle et lui demande quelle récompense il désire pour ce service qu'il lui a rendu. Il lui répond, « Seigneur, ce que je veux que tu me donnes, ce sont des peines à souffrir pour toi et que je sois méprisé et compté pour rien. » Bon, faut pas me dire ça. C'est un peu... Alors, et de fait, ça se réalise. Ça se réalise, ça s'accomplit. Il dit les mots que lui inspire l'esprit, au fond. Et que l'esprit va lui permettre de vivre. On cherche à l'écarter du gouvernement de la province. Il s'offre pour une mission au Mexique. Oui. Bon, finalement, non. Il retourne sans charge en Andalousie, où il tombe malade. L'un des supérieurs, Diego Evangelista, se déchaîne contre lui, recueille des informations pour le compromettre. À vrai dire, Jean de la Croix l'avait eu en formation et il l'avait corrigé. Donc l'autre avait très mal supporté. Donc il se venge. Donc c'est à ce moment qu'on brûle des lettres de Jean de la Croix. Lui-même va brûler toute une bourse, enfin un sac avec des lettres qu'il avait reçues de Sainte Thérèse. C'est terrible. On aurait eu les lettres que Sainte Thérèse lui avait écrites. C'est incroyable, quoi. Bon, c'est comme ça. On brûle des cahiers. Il en détruit lui-même. Et ses amis fidèles le font pour ne pas le compromettre. Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'histoire, quoi. Il n'y avait rien pour le compromettre, mais pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et ça explique pourquoi on n'a rien. Si peu de choses de lui, quoi. Donc, c'est une deuxième explication de l'absence d'autographe de ses écrits. Alors Jean, sans se départir de sa douceur, choisit de finir ses jours dans le couvent d'Ubeda, où le prieur le déteste et négligera les soins indispensables. Et ce que je trouve très intéressant, il va au-devant de sa Pâque, il l'annonce sereinement, la nuit du 13 au 14 décembre 1591, il veut chanter matine au ciel, il demande qu'à la place de la prière triste des agonisants, on lui lise des passages du Cantique des Cantiques. C'est le livre biblique par excellence pour lui. Et dit-il, « Oh, les perles précieuses !» Voilà. Il se fait lire, bon, les agonisants, non, j'en ai rien à faire. Le Cantique des Cantiques. C'est sûr, c'est le texte de l'union de Dieu avec l'humanité, avec son peuple d'abord, Israël, et puis avec l'humanité et avec chaque âme pour Jean de la Croix, c'est clair. Donc je crois qu'on peut dire que Jean s'est bel et bien laissé définir par le mystère de la croix. Et je termine avec ça. Dans le scandale de la croix, et de fait, il s'est heurté au scandale de la croix, il s'est cogné au bois de la croix, comme dit Peggy, il s'est cogné au bois de la croix, mais dans ce scandale de la croix, il a reconnu la sagesse transcendante du projet de Dieu sur l'humanité. Dans l'infamie de la croix, et ça c'est très typique de Jean de la Croix, il a su voir la beauté et la vérité de l'amour infini qui s'offre, qui appelle, qui accueille dans ses bras l'homme brebis perdu. C'est le pastoureau que vous m'avez cité, qu'il a composé plus tard, en 1585, à Grenade. Le berger, le Christ berger qui s'étend sur l'arbre de la croix et qui ouvre ses beaux bras. Donc il voit de la beauté dans l'infamie de la croix. Parce que sur la croix, le berger accueille l'humanité et chacun de nous, brebis perdues. C'est ça. Ça, il a su voir ça. Et pour lui, la croix sera le paradigme des dépouillements de la montée du Carmel. Cet abandon de Jésus en croix, dans lequel il a opéré la plus grande œuvre de toute sa vie, qui est de réconcilier les hommes avec Dieu par la grâce. Montée du Carmel, 2, 7, 11. Alors Jean-Paul II, j'ai lu ça récemment, là j'ai lu ça au moment de la béatification. commentant ce choix, enfin cette perspective de Jean de la Croix, dit « Sur le mystère de l'abandon du Christ en croix, Jean de la Croix écrivit certainement l'une des pages les plus hautes de la littérature chrétienne. » Voilà, cette connaissance éprouvée du mystère de la croix qui unit beauté et souffrance, vérité et amour, justice et miséricorde, il l'a condensé dans ce poème du Pastoureau, que vous pourrez lire, peut-être je vais vous le mettre en enregistrement. Voilà, donc nous aborderons ensuite « Dans le Christ, quel Dieu, quel homme ?» la théologie de Jean de la Croix. 10 minutes. 45.